Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Estelle. Au quotidien, ce sont plusieurs milliers d'enfants et d'adolescents qui bénéficient de sa prise en charge en tant qu'infirmière scolaire. Un métier victime malheureusement de nombreux stéréotypes. Bonne écoute. Bonjour Estelle.
Bonjour Marielle.
Comment tu vas?
Ça va très bien, toi?
Et ça va très bien, je te remercie. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast pour que tu puisses nous parler de ton métier. J'ai déjà reçu plusieurs fois des infirmiers et des infirmières sur le podcast, mais pas dans le secteur dans lequel tu exerces, et je suis très curieuse d'en apprendre davantage. Donc je te laisse te présenter, Estelle.
Donc je suis Estelle, j'ai 31 ans, je suis infirmière scolaire, ou plus justement on dit infirmière de l'éducation nationale, et ça fait 5 ans que je suis infirmière, et ça fait 4 ans que je suis infirmière en établissement scolaire.
Ok. Est-ce que devenir infirmière pour toi c'était une évidence quand t'étais petite ou ado? C'est un métier auquel tu pensais déjà?
Non, pas du tout. Je savais que j'allais un petit peu m'orienter vers l'aide à la personne. Enfin voilà, j'avais déjà cette sensibilité-là. Mais quand je vois quel métier veux-tu faire, moi j'avais écrit clown ou fleuriste. Donc
rien
on
à
était
voir.
Un peu loin.
Et qu'est-ce qui t'a amené vers la formation puis vers le métier?
Alors ça a été plutôt un long cheminement parce que moi j'ai passé un bac ES et suite à ça j'ai fait un BTS en communication. Donc j'étais pas du tout lancée ni dans le soin ni dans la santé. Et puis suite à ce BTS je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Du coup j'ai pris du temps pour travailler déjà. J'ai fait des petits boulots, j'ai fait plein de choses, j'ai voyagé aussi. Et petit à petit, je me suis dit, j'ai envie de faire un métier où je me sens utile pour les autres. Enfin voilà, ça s'est construit en fait au fur et à mesure. Et puis, il y a eu des personnes aussi malades dans mon entourage qui m'a rapprochée un peu du milieu du soin où j'ai découvert un petit peu tout ça. Et je me suis dit, infirmier, c'est pas mal parce qu'il y a plein de choses, c'est très large. On est à la fois dans un métier hyper concret, dans la vraie vie, quoi. On est dans la vraie vie quand on est infirmier, je trouve. À la fois, il y avait pas mal d'apports théoriques aussi. Il faut avoir pas mal de connaissances, utiliser son cerveau, en fait. Et du coup, j'ai passé le concours que j'ai eu assez rapidement. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que je suis tombée sur une de tes vidéos il y a une dizaine d'années sur YouTube.
C'est vrai.
J'ai dû taper aide concours IFSI, quelque chose comme ça.
Oh.
Et c'est très marrant, quoi, du coup, de te retrouver 10 ans après sur un podcast, en fait. Et à l'époque, je ne sais pas si tu pourras me dire, mais Instagram, c'était pas hyper développé, quoi.
Non, mais Instagram, ça fait une toute petite dizaine d'années que ça existe. Donc, oui, YouTube,
ouais,
en tout cas, est arrivé avant.
Instagram,
ouais.
Vraiment YouTube. Et toi, tu faisais pas mal de vlogs aussi. Enfin, c'était le tout début des vlogs et tout ça. Donc
c'est vrai.
C'est très marrant.
C'est rigolo. C'est rigolo. Donc, tu démarres la formation sur le coup des 25 ans, 26 ans
à peu près. J'ai 23 ans et j'ai eu à 26 ans mon diplôme, ouais.
Ok, c'est une question qui revient souvent. Il y a pas mal de gens qui me demandent parfois, est-ce qu'on peut se réorienter vers une carrière d'infirmière, etc. Alors, on peut le faire, bien sûr, beaucoup plus tard, 40, 50 ans, il n'y a pas de limite. Est-ce que tu te sentais en décalage, même si tu n'avais pas 10 ans ou 20 ans de plus que les étudiants, mais est-ce que tu te sentais en décalage, toi, d'avoir déjà ce bagage de formation et d'être peut-être avec des étudiants tout de suite en post-bac?
Il y avait vraiment tous les âges dans la formation, et du coup, c'est vraiment ce qui ne... Ça ne doit pas du tout être un frein, l'âge. Justement, je trouve que quand on a un peu de maturité, on arrive à apprendre... Enfin, on est quand même confronté à des choses difficiles en tant qu'infirmière. Donc, je trouve que quand on a un peu de maturité, un petit peu de stabilité, ça aide à avoir ses études un petit peu sereinement, je trouve. Après, je trouve qu'il y avait des élèves en post-bac qui s'en sortaient vraiment à merveille. Des personnes qui avaient déjà une expérience, déjà qui reprenaient des études à 40 ans, 50 ans, enfin c'était tout aussi admirable, quoi. Donc non, ça doit pas du tout être à frein. Puis au final, j'ai retrouvé des gens qui avaient un peu le même parcours que moi, qui avaient essayé des choses et puis qui avaient essayé le concours. La première fois, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, on se retrouve 23, 25, 22 ans et Et je me suis fait des super copines.
Ah, c'est chouette, super. Pendant les études, est-ce que tu arrives quand même à mettre un pied dans tout ce qui est santé publique, des services, je sais pas, auprès de la petite enfance, etc. Comment ça se passe, ta formation ?
Alors, ça a été assez compliqué parce que moi, je me suis vite rendu compte que j'allais prendre un chemin un petit peu différent. Enfin, là, j'allais peut-être pas faire une carrière à l'hôpital, j'allais pas être dans les soins techniques, faire que ça, par exemple.
C'était tout de suite assez clair pour toi ?
Je pense, voilà, je m'orientais soit vers la psy, soit vers le médico-social. C'était pas hyper déterminé. J'avais déjà le scolaire qui m'intéressait. Et c'était, pour le coup, dans mon UCI et peut-être dans ma période d'études, très mal vu de parler de santé publique, de parler de promotion de la santé, même de psy, c'était un peu limite. Ah. Donc, je l'ai un peu mal vécu parce que, par exemple, j'avais demandé à faire un stage en PMI et c'était pas possible, quoi.
Donc, en protection maternelle infantile.
Oui. Je me dis, c'est quand même incroyable, en fait, d'avoir limité comme ça les stages. J'ai l'impression que maintenant, ça s'est beaucoup plus ouvert. Hein. On reçoit des étudiants en santé scolaire. Les lieux de stage se sont vraiment diversifiés.
Tu sentais que c'était un secteur un peu dévalorisé par rapport aux services techniques, hospitaliers
Tout à fait, ouais, très dévalorisé. Et puis, il fallait pas trop en parler, quoi. Donc, bon, j'ai fait mon petit chemin en sachant très bien que moi, j'allais m'orienter vers un service un peu peut-être pas comme les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Parce que quand j'ai été diplômée, j'ai travaillé dans une unité de vie spécialisée avec les personnes en état végétatif. Ouais, c'est quand même pas fréquent d'essayer ce genre de service. J'ai fait du domicile aussi, j'ai testé un prestataire de santé, c'était pas terrible d'ailleurs, mais voilà, j'ai testé différents lieux d'exercice, de l'intérim aussi, et je suis vite allée dans le scolaire en tant que contractuelle.
Ok. Comment ça se passe pour devenir infirmière scolaire ? On suit une formation supplémentaire, il y a un autre concours à repasser, ou est-ce que le diplôme d'État infirmier est suffisant ?
Alors, il y a trois possibilités pour être infirmière scolaire. Soit, moi, c'est ce que j'ai fait pour commencer, être contractuelle, donc c'est comme à l'hôpital, on envoie un CV. Et puis, moi, j'ai remplacé un congé maternité assez long. J'ai eu un contrat de quasiment un an. Donc là, l'avantage, c'est que c'est comme un CDD, en fait. Mais l'inconvénient, c'est que c'est assez mal payé parce que le calcul d'heures, j'expliquerai tout à l'heure au niveau des heures et du salaire, c'est assez mal payé quand on est contractuel. Mais moi, ça m'a aidé pour déjà découvrir le métier, voir si ça me plaisait, pas m'engager avec un concours et tout ça. Ça m'a permis de travailler aussi le concours à côté. Donc ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est de faire un détachement si on est déjà fonctionnaire. Donc si on travaille à l'hôpital ou si on est dans la fonction publique territoriale.
D'accord.
Voilà, ça évite de passer un concours et il faut faire une demande auprès de sa hiérarchie. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, c'est une voie de détachement pour essayer d'intégrer l'éducation nationale de cette manière. Mmh. Et sinon, la méthode classique, le biais par lequel moi je suis passée, c'est de passer le concours. Donc le concours, d'accord, c'est une fois par an, ça se fait par académie. Moi, je suis dans l'académie Strasbourg-Bas-Rhin. Donc c'est plus ou moins par département. Et il y a un oral, un écrit. Et si on est pris à l'écrit, on peut passer un oral.
Ça représente combien de pourcentage de réussite environ sur le nombre de personnes qui passent le concours ? Enfin, juste pour avoir une petite idée. Je sais même pas si tu le sais d'ailleurs. Mais...
je sais pas trop, mais tu vois, on était une centaine. Sachant que moi, c'est une très petite académie. Hein.
D'accord.
Une centaine, on a été... 5 a été pris.
Ah oui,
voilà.
Donc c'est select.
C'est un concours, après voilà. Ouais, je dirais peut-être 5-10%. Voilà, l'IFSI c'est un peu pareil. Il n'y a plus de concours maintenant.
Ouais, maintenant ça a tellement changé. Mais... Et ce concours est accessible à partir du moment où on a le diplôme d'état infirmier, mais on n'a pas besoin d'avoir exercé X années dans tel ou tel endroit où
non, y a pas
on
de
peut le passer
requis.
Okay.
C'est bien d'avoir un peu d'expérience avant, parce qu'après on est assez seul, donc il faut quand même être capable de gérer des situations d'urgence, enfin se sentir les épaules de gérer ce genre de situation, avoir un petit peu, je pense, une maturité pour gérer. On est quand même face à des ados qui sont en souffrance psychologique, voilà, donc je pense qu'un petit peu d'expérience c'est mieux pour arriver sereinement, mais en tout cas il n'y a pas besoin d'avoir des années précises. Et puis pour l'oral aussi, c'est vrai qu'il faut pouvoir justifier un peu pourquoi est-ce qu'on est là. C'est mieux d'avoir des choses à raconter.
Ouais, il faut avoir un petit bagage quand même pour arriver à l'oral. Voilà. Et le type d'épreuve à l'écrit, ça ressemble à quoi?
Alors, l'écrit, ça peut être des questions de situation. Tel élève arrive, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, cet élève a eu des rapports sexuels non protégés, qu'est-ce que vous faites? Voilà, toute la mise en place au court terme, moyen terme, long terme. Après, ça peut être des questions tout simplement sur le programme de l'éducation nationale. Donc, c'est un autre monde hein, qu'il faut apprendre vraiment. Les textes de loi, toutes les lois de la protection de l'enfance, toutes les normes, les protocoles par rapport à la santé des élèves. Donc on a pas mal de circulaires et de protocoles à savoir, les acronymes. Voilà, c'est très très varié l'écrit.
Ah, en effet, oui.
C'est très large.
Et tu arrives sereinement à préparer ce concours en parallèle de ce poste que tu occupes à côté. Comment t'arrives à t'organiser du coup en termes de temps de travail?
Déjà, le fait de voir sur place comment ça se passe, ça aide quand même. Et puis après, il fallait travailler un petit peu tous les jours, apprendre un peu. Disons que ce que je dis aux personnes qui ont envie de passer le concours, c'est que c'est pas forcément difficile, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir et qui sont très éloignées de ce que nous, on a appris en formation, en fait. Vu que c'est complètement c'est un autre monde, c'est une autre fonction publique d'État.
C'est carrément une branche à part. C'est vrai que c'est,
ouais.
Tu te rajoutes tout un bagage de connaissances à ce que tu connais déjà.
C'est ça. Voilà, donc il faut, sur le long terme, apprendre un petit peu tout le temps.
Voilà. Ok.
Ça serait mon conseil concours.
Ouais, c'est ça. Faut y aller progressivement, quoi. Et donc, tu arrives à obtenir le concours du premier coup.
Alors oui, du coup, j'ai eu concours. Il y avait deux places et j'étais troisième. Donc, donc j'ai un peu eu un mois où j'ai un peu mal vécu. Mais après, ils ont créé des postes. Enfin, voilà, bon, il y a finalement un poste qui a été ouvert. Et puis, j'ai pu être prise sur cette troisième place, un poste pas très loin de chez moi. Et donc, là, je suis arrivée, en fait, sur un poste pas très simple parce que, du coup, j'ai deux... collège de 600 élèves. Enfin, je suis rattachée à deux collèges de 600 élèves. J'ai trois écoles primaires et aussi des écoles maternelles.
Pour toi, toute seule?
Alors, du coup, il y a un collège où je suis seule et il y a l'autre collège qu'on partage à deux. On partage le secteur collège avec école avec ma collègue. Mais c'est quand même...
Punaise.
Ça représente 1500 à 1800 élèves.
Mais oui, j'étais en train de faire un rapide calcul, mais c'est énorme.
C'est compliqué. C'est compliqué. On est un peu partagé. Voilà, je fais deux jours dans un collège, deux jours dans un autre collège. Et quand j'ai un peu le temps, j'essaie d'aller dans les écoles et dans les écoles maternelles pour faire mes dépistages et tout ça. On pourra peut-être détailler les missions un peu plus tard. Et c'est pour ça que quand on me dit qu'infirmière scolaire, c'est la planque, moi, je le vis un peu mal.
Je comprends tout à fait.
A quand même... Alors certes, voilà, on ne travaille plus en horaire décalé comme à l'hôpital, on ne travaille plus les week-ends, il y a des vacances scolaires. Vacances scolaires, je tiens à préciser que ce ne sont pas des vacances qui sont payées. Ce sont en fait nos RTT, parce que nos semaines, on doit justifier 42 heures de travail dans la semaine. Donc,
d'accord.
C'est très condensé. En une semaine, mais on a nos heures annuelles comme ailleurs, en fait, pour faire un 35 heures semaine.
Oui, c'est lissé sur l'année, quoi.
C'est lissé, ouais. Ouais, tout à fait.
Ok. Et justement, on parlait de ces missions de prévention, de dépistage. Je pense que le rôle de l'infirmière scolaire, il est mal connu. Enfin, moi, j'entends encore des trucs horribles du style « Ah bah, j'ai mal au bras, elle m'a donné un verre avec du sucre », enfin, ce genre d'horreur, mais je pense que toi, t'as dû en entendre bien plus. Mais justement, est-ce que tu peux nous présenter peut-être les différentes missions pour lesquelles on peut faire appel à toi? Et donc, pas uniquement justement du curatif ou ce genre de choses comme on peut l'imaginer.
Ouais. Bah d'ailleurs, je tenais à dire par rapport aux préjugés sur ce métier, en fait, je l'ai surtout vécu au sein même de la communauté infirmière et au sein même des soignants. Je trouve
ah
que
oui.
Ceux qui ont le plus de préjugés, ce sont les soignants, parce qu'il y a un peu ce clivage de « on est à l'hôpital, on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures, vous avez des horaires de jour, des vacances scolaires, bon, si c'est pour donner un sucre, ça va ». Mais en fait, c'est pas la même, du tout, c'est pas les mêmes difficultés, c'est un métier qui est pratiqué un petit peu différemment. Et on est confronté du coup à des difficultés comme ce que je disais, de la difficulté d'être un peu partout à la fois et de ne pas réussir finalement à faire ses missions. Et donc, en tant qu'infirmière scolaire, on a un panel assez large de missions qui va être de s'occuper en fait de la santé de l'enfant ou de l'adolescent. Voilà. Donc, ça va de concrètement, je suis un élève diabétique, je dois aller à l'école, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien? Et nous, on est un peu garant des protocoles, de la mise en place de ces traitements pendant le temps scolaire, en collaboration avec le médecin scolaire, bien sûr. Mais nous, on est un peu là pour expliquer au professeur, ben voilà, il est diabétique, il faut que, quand il est en hypoglycémie, qu'est-ce que c'est une hypoglycémie? Aller faire pas mal d'explications aussi auprès de la communauté éducative. Comment est-ce qu'on prend en charge? Parce qu'on part du principe que nous, en tant qu'infirmière, on n'est pas tout le temps là. Donc, il faut que s'il y a une urgence ou s'il y a un problème, que toute la communauté éducative puisse prendre en charge l'élève.
Ouais, c'est important, ça. C'est pas juste agir pour traiter X problèmes. C'est aussi former pour que le reste de la chaîne éducative prenne le relais quand toi, tu n'es pas là.
Tout à fait, c'est ça. Donc ça, c'est pour les problèmes de santé. Après, des fois, il y a des problèmes de santé plus complexes, avec des handicaps. Donc là, on travaille plutôt en équipe pour pouvoir les prendre en charge. Il y a des problèmes de type... si un enfant a des troubles de l'hyperactivité, a un traitement... pareil, il va falloir mettre en place des choses au sein même de l'école pour que sa journée puisse bien se dérouler. Donc nous, on est un peu l'intermédiaire entre les parents, la communauté éducative à ce niveau-là. Ensuite, on a tout ce qui est dépistage infirmier. Donc on doit rencontrer tous les sixièmes et toutes les grandes sections. En sixième, on fait des tests de vue, des tests d'audition, on prend le poids, la taille, voilà, c'est un peu... un peu l'idée qu'on a du dépistage, les problèmes de dos, et puis surtout voir est-ce que comment se passe ta sixième, est-ce que tu vas bien, comment ça se passe dans ta vie en général. Ça permet de rencontrer l'élève dans son entrée en sixième et de le connaître un petit peu jusqu'en troisième si on reste sur le poste. Mmh. Quoi, c'est ça qui est sympa. En grande section, c'est la même chose, c'est voir est-ce que les vaccins ont été faits. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers à la maison? Et puis, des fois, on découvre des choses aussi un peu compliquées pour parler dans les familles, où l'élève, au collège, ça va être il y a beaucoup la problématique du harcèlement. Donc, nous, on intervient aussi pour comprendre et accompagner l'élève, est-ce que s'il y a des soucis à ce niveau-là. Voilà,
tout ce qui est harcèlement. Donc, c'est dans un temps donné qui est restreint. C'est faire connaissance avec l'élève, lui faire comprendre que toi, t'es là pour lui, qu'il peut faire appel à toi, dépister des choses, essayer de creuser, j'imagine, parce que tout n'est pas complètement évident quand tu vois l'enfant. Mm-hmm. C'est une mission qui est hyper, hyper complète, en fait.
Oui, puis ça se fait sur toute l'année, surtout parce que les enfants ne parlent pas beaucoup, les ados non plus. Donc, ça va être au fur et à mesure, en apprenant à les connaître, qu'on va comprendre peut-être qu'il y a quelque chose... Voilà, là, je parle dans le cas où il y aurait éventuellement des problèmes, ou je pense à la protection de l'enfance aussi. Hein. Donc, si on a un élève avec une problématique, on va essayer de le suivre tout au long de l'année pour faire connaissance et comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc ça va être aussi une de nos grosses missions. C'est qu'on essaye d'avoir notre bureau ouvert pour que les élèves puissent venir librement. Alors, ça va du petit bobo, effectivement, du petit rhume. Et des fois, on a des bobos récurrents, j'ai mal au ventre. Et puis, en fait, on comprend qu'au bout de la troisième, quatrième fois, le mal au ventre, il y a peut-être quelque chose derrière à creuser. Mmh. Et très souvent, c'est ça. Quand ils viennent se réfugier, c'est un refuge un peu, l'infirmerie. Mmh. Et en fait, il y a peut-être besoin de parler parce que ça se passe pas bien à la maison, parce qu'en cours, les cours, c'est un peu long. Et puis, il y a un fond d'harcèlement. Et je galère un petit peu, les cours c'est pas trop fait pour moi, et enfin voilà, il y a plein de choses, et quand on apprend à les découvrir, à discuter avec eux, c'est là où le métier prend tout son sens, en fait, je pense. Mmh. Et ce temps-là d'échange et de temps relationnel avec les élèves, il est hyper important, hyper précieux, et c'est notre outil de travail, en fait, hein. Nous, c'est notre base pour pouvoir faire plein de choses derrière avec eux.
Et comment est-ce qu'on arrive à dire, alors j'imagine qu'entre un enfant en grande section de maternelle, en primaire, en collège, c'est différent, mais comment est-ce qu'on arrive à instaurer cette relation de confiance avec l'enfant, l'adolescent, pour... c'est une question que je lance comme ça, il n'y a peut-être pas de réponse universelle, mais qu'est-ce que toi, tu as comme clé pour que ces enfants comprennent que toi, tu es une ressource et qu'ils peuvent venir vers toi sans crainte?
Déjà, être sympa. C'est vrai que rendre déjà l'infirmerie un lieu accueillant en disant écoute, viens, t'es le bienvenu, on y va doucement, ne pas forcer l'enfant ou l'adolescent à dire des choses, ça ne marche pas. On peut parler d'autres choses, on n'est pas obligé de parler tout de suite du problème. Dans ta famille, comment ça se passe? T'as des frères et sœurs? Est-ce que tu fais des activités? Est-ce que t'es épanouie dans ta vie? Enfin voilà, tourner un peu, on tourne beaucoup autour du pot pour finalement arriver là où on a envie d'aller. Mais c'est ce temps, vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître et de créer un lien en fait de confiance. Voilà.
On aborde, j'imagine, dans ton métier la santé mentale et la santé physique. Qu'est-ce que toi tu observes sur les problèmes de santé mentale? J'imagine qu'avec la période qu'on vient de traverser aussi, ça a été, les cartes ont complètement été rebattues. Comment ça s'est passé ces dernières années pour toi et pour les enfants?
L'adolescence a toujours été une période où, de questionnement, de recherche. Donc il y a le mal-être qui est lié à l'adolescence, qui est plus ou moins normal, entre guillemets, où forcément on se cherche. C'est pas la période où on est le mieux dans notre peau en général, hein, l'adolescence. Puis nous, on observe quand même beaucoup d'adolescents dont le mal-être est quand même persistant, profond, entraîne des troubles durables tels que ne plus réussir à venir en cours, se scarifie, des idées suicidaires. Ça, c'est notre quotidien. Quand j'en parle, on ne me croit pas vraiment, mais les idées suicidaires, c'est des choses qu'on doit gérer en fait, hein, dans des établissements scolaires, tout ce qui est phobie scolaire. Bon, alors du coup, on travaille beaucoup en collaboration avec les maisons des ados, on essaye de. Avec les parents aussi, au collège, je travaille beaucoup avec les parents, hein, parce que l'adolescent ne va pas réussir à traiter son problème tout seul. Et avec le confinement. Alors, le confinement, ils l'ont plutôt. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont une capacité d'adaptation qui est complètement incroyable, hein, de toute façon, les jeunes. Mais ça a été la suite. Je pense qu'on souffre tous de ce fait que ça soit du long terme. Là, c'est un peu lourd pour tout le monde, la crise. Et en fait, ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'on a eu le Covid à gérer, du moins tout le contact tracing à gérer en tant qu'infirmière scolaire. On doit gérer tous les cas Covid en fait, à l'école et tous les protocoles sanitaires à mettre en place. Et ça nous prend énormément de temps dans nos missions, dans nos journées. C'est très complexe, en fait, ce qu'ils nous ont mis en place en termes de protocole. Et du coup, on a moins de temps dispo pour faire nos autres missions, c'est-à-dire accueillir les élèves, faire de la prévention. Il n'y a quasiment plus aucun projet de prévention parce qu'on n'a plus le temps de le faire. Les dépistages, l'année dernière, je n'ai pas pu les faire, c'est-à-dire rencontrer tous les sixièmes.
Ah oui, carrément.
C'était pas possible. Il y a eu la période où on était confinés, plus tout ça à gérer. En fait, quand on a un cas positif, on a du contact tracing à faire derrière. Ça veut dire rappeler les parents, faire du courrier, vérifier quand est-ce que l'élève vient. On nous envoie facilement des élèves parce que dès qu'il y en a un qui est un petit peu malade, et ben on stresse. On se dit est-ce que c'est le Covid, est-ce que... Enfin voilà, ça génère en fait tout un stress. On sent que la situation n'est pas vraiment normale.
Et sans moyens supplémentaires, quoi. On compte sur vous pour prendre en charge tout ça, et puis bah, du coup, ça met de côté tout le reste.
Voilà, c'est une mission supplémentaire, et en plus, ce qu'on a observé, c'est que nous aussi, on souffre d'un problème de recrutement. On n'avait pas trop le problème avant, mais là, moi, tu vois, j'étais en congé mat, on a trouvé personne, en fait. Hein. On a trouvé personne
pour te remplacer.
Et c'est la première fois qu'on arrive à une telle pénurie de soignants, en fait. Donc, c'est un problème... En fait, ce que je dis souvent dans mon métier, c'est que les problèmes de société se répercutent dans les établissements scolaires. Et à l'hôpital aussi, d'ailleurs, c'est le cas. Mais tout ce qui va se cristalliser dans une société, c'est-à-dire les problèmes de... même de pauvreté, de problèmes sociaux, problèmes de santé mentale vont se répercuter dans d'autres lieux sociaux tels que les établissements scolaires.
Complètement. Ouais, c'est un effet boule de neige et puis vous êtes à la fin de la descente, quoi.
C'est ça.
J'ai une question un peu générale, mais j'aime toujours la poser. Mais de quoi est-ce que tu manques, toi, dans l'exercice de ta profession?
De reconnaissance, ça c'est clair et net. Hein. Des fois on se demande, même si notre propre employeur, c'est ce qu'on fait en fait au quotidien. Donc je dirais de reconnaissance, parce qu'on est, je pense qu'on a quand même un maillon assez essentiel dans la prise en charge des élèves, des jeunes, de la santé des jeunes. Et puis de cette reconnaissance découlent des moyens. Voilà. Donc des moyens humains pour pouvoir faire au mieux nos missions, parce que nos missions, elles sont très importantes et très belles, et ça serait bien de pouvoir les faire correctement.
Ouais. Tu parlais de salaire tout à l'heure. Moi, c'est pas une question que j'aborde avec mes invités parce que j'imagine que tout le monde n'est pas à l'aise avec cette idée-là. Mm-hmm. Mais toi, tu m'en as parlé spontanément dans les premiers messages qu'on s'est envoyés. Tu m'as dit que tu étais OK pour en discuter dans le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, à ce sujet-là ?
Oui, je voulais l'aborder parce que c'est vrai que souvent, on pense qu'en scolaire, on est moins bien payé parce qu'il y a justement les vacances scolaires. Et donc, je voulais repréciser ça, que c'est les mêmes salaires que dans les autres fonctions publiques qu'à l'hôpital. Donc, une infirmière, elle démarre autour de 1 600-1 700 euros net par mois. Mmh. Et c'est juste qu'il faut savoir qu'on fait, c'est calculé sur 42 heures semaine. Voilà. Mmh.
Je voulais le préciser. Pour arriver à ces 35 heures lissées sur l'année. Non, ça, c'est important. Tu vois, même moi, je le savais pas. Donc,
Par contre, on ne peut pas avoir d'heures sup non plus. Enfin, on ne peut pas prendre d'heures sup.
Est-ce que tout ce qui a été Ségur de la santé, etc., a un petit peu revalorisé les salaires aussi, du coup ?
Alors.
Alors, parlons-en.
Ouais, c'est ça. Donc, on n'est pas concerné par le Ségur. Donc, ça aussi, quand je disais manque de reconnaissance et tout, j'ai dit, punaise, ça fait 2 ans qu'on gère à notre manière le Covid. Donc, c'est un peu vexant. Ouais, mais il va y avoir des revalorisations, notamment des grilles et des primes qui vont être ajoutées par-ci, par-là. Pour l'instant, c'est un grand charabia, mais a priori, on devrait être concerné par une augmentation. Combien, comment, pour l'instant, je ne sais pas.
Ouais, c'est encore un peu flou, mais c'est dans les tuyaux, quoi.
Tout à fait.
Bon, ben, on croise les doigts, écoute, hein, pour tout ça. Et je rebondis aussi sur quelque chose que tu m'as dit dans les premiers messages que tu m'as envoyé. Je crois que tu es également sophrologue. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de cet autre métier ? Et je serais intéressée de savoir si tu arrives à lier justement ces deux pratiques auprès du public dont tu t'occupes.
Oui, alors j'ai commencé... Alors je me suis formée moi-même à la sophrologie à côté de mon métier. Ce n'est pas du tout lié à l'éducation nationale. Je n'ai pas été financée par l'éducation nationale et tout ça. C'est moi qui, dans la vie, je suis quelqu'un de très curieuse et j'ai besoin de faire plein de choses. Et voilà, j'ai entamé cette formation. Ça partait du constat que je manquais d'outils pour accompagner les jeunes, notamment quand ils faisaient des crises d'angoisse ou par rapport à l'anxiété des adolescents en général. Donc ça m'a apporté pas mal d'outils, puis je me suis rendu compte qu'avec la sophrologie on pouvait faire plein de choses. Et au fur et à mesure, bon, ça fait pas longtemps que j'ai démarré il y a 6 mois. J'ai commencé à prendre en charge des groupes en dehors de mon travail et je fais des séances de groupe. L'idée, ça serait peut-être de cumuler les deux l'année prochaine, de faire peut-être un mi-temps en tant qu'infirmière de l'éducation nationale et mi-temps sophrologue, à voir comment ça s'articule. Et moi, ça me fait du bien de voir un petit peu d'autres choses, de sortir un petit peu de cette grosse machine qu'est l'éducation nationale, où on peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais en même temps de garder un pied dans le métier que j'aime bien, donc voilà.
Donc au quotidien, c'est un outil, c'est un biais, on va dire, pour rentrer en contact avec les adolescents, les enfants. C'est une arme de plus, on va dire.
C'est ça, c'est un outil en plus. La respiration, des exercices de respiration, c'est des choses qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, je fais des fois des ateliers relaxation avec eux, et ils sont hyper... hyper
preneurs. Réceptifs.
Ouais, les enfants, les ados sont très réceptifs à ça.
Ah, génial.
Et en fait, ils demandent, s'ils pouvaient faire que ça, un parcours, ça leur irait très bien. Mais on prend, même pour les professeurs, mettent de plus en plus ça en place. Hein, avant de commencer un cours, c'est 5 minutes, on se pose, on respire, on fait attention à sa respiration, on se vide la tête. Et voilà, des ateliers sur la santé aussi. Et je les intègre là-dedans, en fait. Comment est-ce qu'on prend soin de soi au quotidien ?
Ah, génial. Mais je vois que les choses bougent. Alors, tu vois, moi, j'ai une petite fille qui est en maternelle, donc j'ai pas encore un grand recul, mais ne serait-ce que... Enfin, moi, je suis épatée par la gestion des émotions. C'est un truc que j'ai l'impression que moi, on m'a jamais appris. Et si je l'ai appris, c'est par mes expériences, peut-être mon éducation avec mes parents, etc. Mais j'ai l'impression qu'à l'école, on m'a jamais appris ça. Et sur ma fille de 4 ans, je suis épatée. Ne serait-ce que être capable de dire du haut, puis c'était déjà le cas quand elle avait 2 ans et demi, 3 ans, de dire là, je suis fâchée, là, je suis en colère, là, je suis énervée. Tu vois que les choses évoluent aussi de ce côté-là ?
Tout à fait. En fait, c'est carrément dans les programmes de l'éducation nationale. Donc nous, on appelle ça des compétences psychosociales, pour ceux que ça intéresse. Tout à fait, compétences psychosociales. Et ça va être vraiment les compétences du fait de gérer comment on prend soin de soi, comment on gère son stress, comment on communique avec les autres. Toutes ces compétences intrapersonnelles et interpersonnelles. Et du coup, on travaille beaucoup sur les émotions dès la maternelle, oui, effectivement. Et ensuite, au collège, on essaye aussi de mener des projets dans la gestion de conflits, dans la communication non-violente aussi. Ça, c'est aussi une grande thématique.
Et il y a de la réponse, tu trouves, auprès des adolescents. Pareil, il y a un écho.
Oui, surtout si... En fait, tous les projets qui fonctionnent, c'est ceux qui sont menés déjà depuis l'enfance. Hein. Pour eux, c'est comme une continuité. Et non, ils sont très réceptifs... à ce genre de sujet, en fait, c'est leur quotidien. Hein. La relation avec les autres, c'est leur quotidien. Et c'est ce qui est compliqué, d'ailleurs, au collège.
Oui, c'est sûr. Tu nous parlais tout à l'heure de médecins scolaires. Je serais curieuse de connaître, du coup, les autres professionnels avec lesquels tu es en contact au quotidien. Est-ce que, je sais pas, tu peux faire appel à une assistante sociale ou peut-être des gens comme ça autour de toi.
Mais c'est vrai que ça, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. On me dit, est-ce que tu souffres pas du manque de... Parce qu'à l'hôpital, on travaille en équipe, entre autres. Et là, on a l'impression qu'on travaille un peu seul. Mais en fait, je ne travaille plus forcément avec d'autres infirmières au quotidien. Mais on a toute une équipe qu'on peut solliciter en cas de besoin. Donc, il y a effectivement le médecin scolaire. Donc, il faut savoir que le médecin scolaire a des secteurs... très large, donc elle, c'est l'équivalent de 10 000 élèves.
Ah, punaise!
Ouais, donc elles sont disponibles, hein, mais c'est un métier compliqué. Donc là, elles vont gérer essentiellement tout ce qui est protocole, tout ce qui est purement médical en fait, que nous, en tant qu'infirmières, on ne peut pas faire. Des documents à signer, à formaliser. Covid aussi très présent, tout ce qui est problématique de santé publique, elles ont été très présentes. Elles font aussi, elles gèrent aussi tout ce qui va être un élève qui va être dyslexique ou qui a besoin d'aménagement adapté. Donc elles peuvent donner des avis, donner des conseils sur la mise en place d'aménagement pédagogique. Donc ça, c'est pour les médecins scolaires. Ensuite, les assistantes sociales, donc personnel avec qui on travaille énormément pour tout ce qui est protection de l'enfance, harcèlement. On a des missions très très similaires, très complémentaires aussi. Donc assistante sociale, vraiment un maillon essentiel dans l'éducation nationale.
Et pareil, elles ont un périmètre défini et toi tu peux faire appel à elles pour des situations bien particulières.
C'est ça, moi, surtout au collège parce qu'en primaire il n'y a pas d'assistante sociale. Donc ça aussi c'est malheureux parce que l'assistante sociale en primaire c'est l'infirmière scolaire.
Ah oui, d'accord, mais tu vois, je ne savais pas du tout ça.
On peut faire appel à des assistantes sociales, mais très généralement, c'est l'infirmière qui gère les situations quand il y a besoin. Et oui, les assistantes sociales, souvent, sont aussi sur 2-3 établissements. Donc, il y a tout ça un petit peu à gérer. On a les CPE, les conseillers principaux d'éducation. Je pense qu'on se souvient peut-être tous de nos CPE au collège, au lycée.
Ça a peut-être réveillé des traumatismes, là.
C'est ça, voilà. Ils n'ont pas toujours le bon rôle, mais en vrai, ils sont vraiment au cœur de la gestion d'un établissement scolaire. Et tout va passer par eux, ils sont au courant de tout. Ils sont au courant quand quelque chose ne se passe pas bien. Et donc, on échange pas mal d'informations. Mais il faut trouver l'équilibre entre aussi le secret professionnel... puisque on est dans la santé, donc on a des infos qu'on ne peut pas transmettre.
Ah oui.
Voilà, ça c'est toujours l'équilibre à trouver entre qu'est-ce qu'on dit aux professeurs pour quand même faire avancer, faire avancer la situation, et en même temps, on ne peut pas tout dire non plus, quoi.
Ouais, voilà. Rendre service à l'enfant et puis à la fois ne pas le desservir sur d'autres aspects, quoi.
Ouais, puis surtout rompre le secret professionnel.
Oui.
Voilà.
Ah oui, c'est sûr. Ah oui, ça, j'avais même pas pensé à ça. Mais oui, bien sûr, toi, il y a des choses dont tu as connaissance et qui restent strictement dans le cadre de ta profession et que d'autres personnes ne sont pas censées savoir.
Ah, je prends un exemple. Si un élève arrive un jour avec des bleus, qui me dit qu'il y a eu des violences à la maison, etc., voilà, une situation de ce type-là, moi, je vais devoir faire un signalement au procureur. Donc, je vais détailler ce qui s'est passé. Je vais envoyer un écrit au procureur, signé de mon nom. Le chef d'établissement va être informé qu'un signalement a été envoyé depuis son établissement, mais ne saura pas le nom de l'élève et ni ce qui s'est passé.
Il connaît le nombre de signalements, mais pas les détails et pas l'enfant concerné.
Voilà, ça c'est vraiment important. Ça reste l'idée, c'est que c'est déjà tellement dur pour un enfant de se confier que il faut vraiment garder cette confiance avec lui. Et puis en termes de la loi, de toute façon, on n'a pas à divulguer ce type d'informations. Bah, en fait, si j'avais quelque chose à dire, notamment à la profession infirmière, c'est croyez en vous, croyez en vos compétences. Je trouve qu'on a vraiment un métier hyper riche, hyper complexe. Il faut vraiment le valoriser parce qu'on sait faire beaucoup, beaucoup de choses. Et aussi, si vous avez d'autres projets, d'autres envies, ne vous limitez pas parce que vraiment, je pense qu'on est capable de grandes choses et on s'en rend pas toujours compte.
Ouais, ça, c'est un super message. T'as raison, parce que en plus, on peut arriver dans un domaine d'exercice, se dire là, je suis bien, c'est confort, je suis à l'aise, mais en fait, il y a tellement, tellement de choses à faire et à voir.
Aussi, ouais.
Ouais, faut pas avoir peur. Merci beaucoup, Estelle.
Eh ben, avec plaisir.
C'était super intéressant. On va finir avec le mythique portrait chinois. La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique?
Je trouve que une baguette magique qui permettrait de faire des réunions instantanées, de réunir tout le monde, parce qu'on passe notre journée à courir après tout le monde, parce que tout le monde est un peu débordé. Donc si on pouvait hop, juste se voir et puis pouvoir discuter, et voilà, vraiment le travail d'équipe, c'est hyper important.
La question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail?
Alors, je pense que c'est « Attendez, je vous rappelle, je suis avec un élève. » Parce qu'on gère à la fois les appels, des fois on est en consultation et il y a des élèves qui toquent. Enfin voilà, on fait beaucoup de choses en même temps.
Ouais, j'imagine. T'es souvent interrompue dans ce que tu fais.
Très souvent, très très souvent.
La question suivante, je parle de médicaments et donc je dis souvent « Si tu étais un médicament, lequel serais-tu » Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe au niveau de l'administration d'éventuels traitements.
Ah oui, on n'a pas parlé de ça. C'est vrai que on est la seule profession infirmière à pouvoir donner des médicaments, certains médicaments, sans ordonnance.
Ok.
Donc, il y a le Doliprane, le Spasfon, le Smecta, et j'en oublie, de l'Arnica. Enfin, voilà, rien de fou, mais quand même... On peut faire aussi des prescriptions pour des renouvellements de pilules et pour du sevrage tabagique. Mais dans les faits, c'est pas vraiment mis en pratique. Hein.
Ok, mais dans les textes, tu as le droit.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Donc tout ça, on aimerait que ça se développe aussi au fur et à mesure. S'il y a d'autres médicaments à donner sur le temps scolaire, il faut qu'il y ait des prescriptions, des ordonnances et tout ça. Et on peut aussi donner des médicaments sur le temps scolaire, voilà.
L'enfant arrive avec l'ordonnance de son médecin et toi, tu es en capacité de lui administrer.
Voilà, c'est ça.
Et alors du coup, si tu étais un médicament, lequel serais-tu?
Je n'ai pas le droit de répondre paracétamol.
Non, c'est interdit. C'est beaucoup trop facile comme réponse.
Moi, je me suis dit, ce serait un bon placebo. Je crois que c'est assez cliché, mais ça marche assez bien. En fait, je pense que le meilleur médicament, c'est l'écoute.
Oui, mais comme tu disais, si t'as des enfants qui rentrent dans ton bureau puis qui te disent « j'ai mal au ventre », puis tu comprends qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, je comprends ce que tu veux dire, du coup.
C'est ça.
Ils arrivent avec un problème, et puis en fait, le problème est plus profond, quoi.
C'est ça.
Question suivante, plutôt thé ou café?
Les deux.
Bah oui, très bien, t'as raison. Et la question suivante, plutôt crocs ou basket? Du coup, je me demandais dans quelle tenue tu exerces. Est-ce que t'as peut-être une blouse en haut ou...
Je crois que j'ai des collègues qui portent des blouses. Moi, j'en porte pas. Moi, c'est plutôt petit talon ou basket selon la journée qui s'annonce. Mais c'est vrai que je crois que j'ai des collègues qui portent des blouses, mais c'est pas du tout obligatoire. Je trouve que ça fait un petit peu une barrière. Moi, c'est à discuter. Hein, je sais pas trop.
Oui, je comprends. Ah ouais, c'est complètement discutable comme point de vue, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Question suivante, plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an?
Oh bah, moi, il n'y a pas photo. Moi, c'est 10 lieux d'exercice en un an. C'est mon tempérament à essayer plein de choses, à bouger. D'ailleurs, au sein même de l'éducation nationale, on peut aussi demander à changer d'établissement scolaire, aller dans les lycées, par exemple. Parce que moi, j'ai pas testé encore les lycées. On peut être en internat aussi, donc on fait des gardes la nuit. Il y a des lycées, il y a l'université, le collège, l'école primaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a qui sont dans des établissements de type... des établissements agricoles, voilà.
Ah oui, 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 d'accord. Ouais. Donc tu pourrais faire la demande et en attendant qu'une place se libère pour être transférée dans l'un de ces établissements.
Tout à fait, c'est ça.
Ok, c'est bon à savoir. Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé le métier d'infirmière, vers quelles études ou vers quel autre métier te serais-tu orientée ? Sophrologue n'étant donc une réponse pas acceptée, hein, je veux savoir autre chose.
Bon, je pense que j'aurais continué peut-être dans la com, dans le graphisme ou quelque chose comme ça. Mais au final, j'allie un petit peu les deux parce que la prévention de la santé, il faut avoir à la fois des compétences un peu en communication,
c'est sûr,
développer des projets et à la fois avoir des compétences en santé. Donc au final, je m'y retrouve avec mes deux formations.
Et quand on dit promotion de la santé, il y a promotion aussi. Hein.
C'est ça.
Donc c'est vrai que tu vois, t'es quand même arrivée au bon endroit avec ce double bagage, triple bagage maintenant avec la formation de sophrologue. Mais
il n'y a pas de hasard.
Ouais, moi je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Ouais, vraiment. Et puis ne serait-ce que pour, j'imagine, faire des présentations devant des enfants, des choses intéressantes, ludiques, interactives, c'est utile aussi.
Il faut faire faut créer des outils, faut avoir un peu d'imagination et puis rendre ça un peu ludique. Sinon on les endort vite, les ados.
Ouais, si on arrive avec un PowerPoint en noir et blanc, ouais, là, c'est
ça,
sûr
là,
que
c'est sûr.
Faut s'accrocher. Hein. On l'a tous vécu, hein, mais franchement. Bon, bah super, un grand merci Estelle.
Merci à toi Marielle. Et puis c'était un plaisir, 10 ans plus tard, de te parler.
Ouais, bah tu vois, je trouve ça génial. Ouais, ouais, écoute, je suis très contente si j'ai pu t'aider 10 ans en arrière et du coup j'étais ravie de discuter avec toi.
Et bah au plaisir de découvrir. Tout
reste. À bientôt.
À bientôt.
La santé scolaire est un véritable enjeu de santé publique. Et j'espère que le témoignage d'Estelle vous aura fait réaliser à quel point il est nécessaire que les choses changent, notamment par le biais de moyens plus importants et d'une véritable reconnaissance du métier d'infirmière scolaire. Merci pour vos nombreuses écoutes. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode.